Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Contemporain d'Éric Satie, Darius Milhaud ou Henri Sauguet, Maxime Jacob, compositeur français d'origine juive, né en 1906 et devenu après sa conversion au catholicisme, dont Clément Jacob, s'était peu soucié de diffuser une œuvre inclassable, trop vite tombée dans l'oubli, jusqu'au jour où Bernard Arbus, musicologue et pianiste concertiste, ayant passé son enfance à Revel, à l'ombre du monastère d'Ancalcat, où Maxime Jacob était entré dans les ordres en 1930, ne redécouvre là l'œuvre inédite du compositeur, dont Clément Jacob. Familier du personnage et de sa musique qu'il découvre adolescent dans les années 70, à l'occasion des nombreux concerts donnés par le moine musicien dans la région, il s'attache aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, à faire découvrir les œuvres du maître.
Mon histoire avec Don Clément Jacob, c'est avant tout l'histoire de plusieurs rencontres. La première rencontre, je m'en souviens très bien, a eu lieu à l'église de Revel, où nous possédons une maison familiale. Et j'allais souvent jouer de l'orgue. Une fois, j'ai trouvé l'orgue occupé, et occupé par un improvisateur flamboyant. Donc j'ai écouté, je devais avoir 13 ans, 14 ans, et j'ai écouté pendant un long moment, et j'entendais des improvisations sur des thèmes connus, d'autres moins connus. Et lorsque l'organiste est descendu de sa tribune, j'ai vu que c'était un moine qui avait l'air très sympathique, d'abord très sympathique, alors je l'ai abordé. Et nous avons commencé à discuter un peu. Il m'a avoué qu'il était compositeur, qu'il était au monastère d'Ancalcat, pas loin de Revel, à côté de Dourgne. Et il m'a demandé ce que je faisais. Donc je lui ai dit que j'étais au conservatoire, que j'étais en piano, et on a comme ça commencé à parler de ce que je jouais, de mon histoire musicale, de la sienne. Et après, à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc je me suis quand même renseigné sur la personnalité de ce moine et de ce musicien extraordinaire. Et j'ai su que c'était un compositeur qui avait eu une passé musical assez riche avant son entrée au monastère, et qui s'appelait donc Clément Jacob. Ça, c'était la première rencontre. Ensuite, la seconde rencontre a eu lieu un petit peu plus tard. C'était à Saint-Étienne, à la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse, où là aussi, je suis allé écouter un concert de Don Clément, qui était un concert où il jouait quelques-unes de ses œuvres et d'autres œuvres de Bach. Je crois que c'était le prélude des fugues 532, il me semble. Là, donc, je me suis fait connaître à la fin du concert. Je suis allé le voir et nous avons échangé à nouveau amicalement. Et ensuite, j'ai retrouvé au jury de mon concours de piano, du prix de piano au conservatoire. Il faisait partie du jury, et donc nous avons à nouveau échangé. Et c'est une rencontre multiple. Voilà. Sinon, ça a été aussi l'histoire d'une. Ça a été l'histoire également d'une attirance artistique, parce que j'ai été longtemps enseignant, professeur de piano dans plusieurs écoles de la région toulousaine, et je me suis trouvé face à face plusieurs fois par hasard avec des œuvres, des œuvres éditées chez Jaubert de Don Clément Jacob, des œuvres pour enfants, mais également sa première sonate pour piano. Et la curiosité m'a poussé à connaître et à travailler ses œuvres, et qui étaient des œuvres d'une très très grande qualité. C'était vraiment différent de ce qu'on trouve habituellement dans la littérature de jeunesse pour piano. Voilà, en gros, j'ai eu à faire rencontrer Don Clément Jacob plusieurs fois, à plusieurs occasions, physiquement, artistiquement, historiquement également, parce que il se trouve que au monastère d'Ancalcat, il y a un pianiste, un ancien pianiste assez connu, qui s'appelle Thierry de Brunhoff. et que ce pianiste était le maître de mon professeur de piano, Monique Deschaussée, et qui s'est retiré au monastère après un accident, je crois, assez grave, et qui a arrêté en quelque sorte de jouer du piano. Donc c'est aussi une rencontre un peu historique que j'ai vécue avec
Donc il a été là, il a jalonné votre chemin.
Voilà, ça a été un jalon musical de toute ma vie, en fait. je le reconnais. Et puis également, sur un plan historique, il est né le même jour, enfin la même année que mon grand-père. Il a vécu au même endroit que mon grand-père.
Il y a des correspondances, hein.
Voilà, tout à fait. C'est quelque chose qui m'a marqué.
Et ça vous interroge ?
Ah, tout à fait, oui. C'est une rencontre du cœur, du corps et de l'esprit. Oui. C'est une rencontre totale.
Oui. Vous avez parlé de rencontre, mais il y a la rencontre. C'est vraiment la rencontre. Voilà.
La rencontre musicale également. Hein, parce que c'est une œuvre qui me touche profondément par sa dimension esthétique également. Mmh.
Maxime Jacob, cet être flamboyant qui avait certainement un grand charisme et comme vous l'avez dit, avant de rentrer au monastère, avant de prendre ce nom de Don Clément Jacob, avait déjà eu toute une vie. C'était déjà un compositeur qui était connu et qui était promis à un grand avenir. Alors, un peu mondain, je crois peut-être.
Très.
Alors, j'enlève un peu.
Il dit lui-même qu'il était... qu'il s'habillait d'une façon très particulière. C'était une sorte de dandy un peu... Je ne vais pas trahir sa mémoire en disant que il était un peu superficiel, un peu léger. Il le dit lui-même dans Les Souvenirs à deux voix qu'il a écrit avec la pianiste Rosemarie Clouzot. Mais en revanche, on sentait chez lui, même dans cette attitude et même dans ses rencontres, on sentait chez lui une grande profondeur et puis une grande liberté créatrice. En fait, ce qui fait de lui un artiste chrétien et qui était déjà présent avant sa conversion au catholicisme. Il était dans une quête d'authenticité. Je crois que c'est ce qui caractérise Don Clément, c'est cette, loin des modes et des convenances, c'est cette quête d'authenticité, ce désir de liberté et qui se traduit par ses excentricités vestimentaires, par ses relations multiples, ses attirantes multiples. Hein. Il a été aussi bien attiré par il le dit lui-même, mais d'une façon très très innocente par l'action française maurassienne, mais également par Aragon. Mmh. Enfin, c'est un peu plus qu'une quête idéologique, c'est une quête, esthétique chez Don Clément, une quête profondément authentique et personnelle.
Mmh. J'imaginais moi un petit peu les salons proustiens. Une ambiance à la Proust.
Voilà, même s'il détestait Proust. Il le dit lui-même, il détestait Proust. Mais c'est vrai, c'était cette tradition des salons parisiens, de la princesse de Polignac, du salon Clouzot. Cette tradition, il était l'invité. Alors, souvent, il fait allusion à sa présence comme étant celle du tapeur, hein, entre guillemets, puisque c'était le rôle du pianiste, du jeune musicien pianiste, qu'on invitait parce qu'il faisait partie de l'école d'Arcueil et qu'il avait une certaine renommée parmi les musiciens.
Et une présence.
Et une présence très forte, hein, puisque c'était un très bon pianiste, c'était un très bon pianiste et un musicien déjà assez connu. Donc il était invité en tant que membre de l'école d'Arcueil, comme élément de mode, mais également comme élément de nouveauté, hein, de nouveauté plus que la mode, c'était la nouveauté artistique. Ce qui, je pense, au fond, ne lui convenait pas vraiment. Ce qu'il cherchait, on le lit encore dans ses écrits, dans L'Art et la Grâce ou dans Les Souvenirs à deux voix, ce qu'il cherchait avant tout, c'est de pouvoir être musicien, d'avoir une identité musicale. Mmh. Et là, je crois qu'il était un peu dans... c'était plutôt un moyen qu'une fin. Voilà. Mmh.
Jusqu'au jour où il y a une conversion. Alors, mais vraiment une conversion radicale, c'est sa rencontre avec Jacques Maritain, je crois.
Avec Jacques Maritain, également avec l'abbé Altermann, qui était un de ses maîtres aussi en religion. Et voilà. Et avec Léon Lafarge aussi, c'est un écrivain régionaliste quercinois qui habitait à Saint, à Cahors, à côté de Cahors, je ne me souviens plus du nom du village. Et lors de ses visites à Léon Lafarge et avec la famille de Léon Lafarge, je crois qu'il a été très influencé par la religion de Léon Lafarge, par sa façon de croire, qui était une façon authentique et réellement libre également. Ouais. Ces mots, authenticité et liberté, reviennent toujours dans la bouche de Don Clément Jacob, parce que c'est pour lui, je crois que c'est l'idéal de la chrétienté, l'authenticité, la liberté.
Donc, c'est un être entier, parce qu'il aurait pu se convertir, mais sans aller jusqu'à rentrer au monastère, à devenir moine. C'était tout ou rien, quoi.
Oui, voilà, c'était son objectif au départ. En fait, Maritain le voyait, il dit que Maritain le voyait vraiment comme un catholique. Voilà, comme un catholique, mais pas comme un moine. Et à partir du moment où Don Clément a davantage intégré la pensée la force du Christ, je crois qu'il a Il n'y a pas eu de choix pour lui. Le choix, c'était où je suis moine, où je rentre réellement en religion, ou alors je fais quelque chose qui n'est ni chair ni poisson, c'est-à-dire que je continue à composer de la musique, mais sans passer par ce à quoi je crois vraiment, c'est-à-dire le Christ. Et c'est vraiment son intégrité qui a été la marque de sa conversion, son intégrité morale, qu'on retrouve à tous les niveaux, et dans son attitude durant la guerre également. C'est un homme... Certaines le trouveraient, on parlera de région d'innocence quand on parle de la musique de Don Clément Jacob, mais certains le trouveraient naïf, mais pas du tout, ce n'est pas du tout un naïf, c'est le contraire d'un naïf, c'est un homme qui est engagé réellement dans sa liberté, dans son authenticité, le mot que je vais répéter souvent parce que c'est la marque de cet homme.
Et Inkalkate, pourquoi Inkalkate? Pourquoi les bénédictins?
À mon avis, il n'en parle pas tellement de ça, mais à mon avis, je pense que c'est lié à ces rencontres, au fait que Albi, Bordeaux, Cahors ont été en quelque sorte ses pôles d'attraction durant sa jeunesse. Albi parce que sa sœur Babette y a enseigné les mathématiques, Bordeaux parce qu'il y est né et parce que sa mère y a vécu et il y a vécu avec sa mère, Cahors parce qu'il y a rencontré Léon Lafarge et qu'il a beaucoup marqué. Je crois que c'est un peu au centre de ces... Et puis parce que également, je crois qu'Emmanuel Rivière, une de ses connaissances, est rentré dans les ordres à Sainte-Scolastique en face de l'abbaye d'Inkalkate. Et donc je pense qu'il y a une sorte de continuum géographique entre sa conversion, ses pôles d'attraction et sa présence à Dieu et à la religion. Je crois qu'il ne pouvait pas aller ailleurs qu'Inkalkate. Il a été exilé, entre parenthèses, à la pierre qui vire durant la guerre, et ça ne le satisfaisait pas.
Donc il est revenu là. Si quelques-unes des compositions de Don Clément Jacob ont été éditées, la plupart sont restées à l'état de manuscrit. Certaines de ses pièces furent jouées à Paris par sa principale interprète et dédicataire, la pianiste Marie-Rose Clouzot. Mais pour le pianiste, aujourd'hui, il reste à inventer littéralement l'image archétypale de ses œuvres qu'un premier enregistrement réalisé en 2004 par Bernard Arbus a pu livrer à un public et à une critique très attentif.
Je savais que Don Clément Jacob était un compositeur de talent, de grand talent, que j'appréciais, puisque j'ai pu lire sa première sonate qui a été éditée. Je le rappelle, les autres ne l'ont pas été. Et la qualité musicale de sa première sonate m'avait frappé. Vraiment, j'avais trouvé que c'était une œuvre extrêmement bien construite, pleine d'idées merveilleuses, d'idées musicales merveilleuses. Et donc j'ai eu la curiosité de me rendre, puisque j'habitais à Revel à ce temps-là, de me rendre au monastère d'Inkalkate et puis de rencontrer le père Dominique Herman, qui était à l'époque déjà assez âgé, et lui demander si je pouvais avoir des photocopies des œuvres de Don Clément Jacob.
Parce que tout était bien gardé et conservé. Hein.
Tout est très très bien conservé au monastère, et je dois dire que les pères Dominique Herman et Christophe Chapuis, le le père Christophe Chapuis, qui est toujours au monastère d'Encalcade, et qui est un érudit remarquable, et qui a fait un travail remarquable de classement des œuvres.
C'est un bénédictin, tout simplement.
Bénédictin, voilà, tout à fait. Qui a fait un travail remarquable de classement, et qui m'a ouvert réellement la porte des œuvres de Don Clément Jacob, m'ont aidé à prendre contact, à mettre ces œuvres, qui étaient des œuvres en puissance, de les mettre en acte. Et donc, j'ai commencé à travailler ces œuvres, et plus je les travaillais, et plus ça me semblait une richesse inouïe au sens propre du terme. Et j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir à l'époque pour essayer de les faire reconnaître, donner des récitals de piano, les enregistrer. Bon, je dois vous avouer que le travail de déchiffrage de Don Clément Jacob s'apparente souvent à du défrichage, parce que
les partitions sont voilà, brouillonnes.
Voilà, il y avait quelques esquisses qui étaient. Alors, de temps en temps, il avait des notes d'humour assez intéressantes. Il faisait des petites flèches dans la partition en disant c'est là que ça se passe, ou rendez-vous plus loin. Donc il y avait un petit jeu de piste qui était souvent qui pourrait s'apparenter un peu aux partitions du Moyen-Âge ou de la Renaissance, hein. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant qui m'a été
mais qui dénote aussi sa personnalité,
qui dénote sa personnalité. C'est le travail de l'esquisse, un peu à la manière de Beethoven. Le travail de l'esquisse chez le compositeur est un travail qu'on connaît bien, et ce qui m'a intéressé, c'est donc ce déchiffrage d'œuvres inouïes, de sonorités également remarquables, toutes plus subtiles les unes que les autres. Et j'ai commencé à travailler une sonate, puis deux, puis trois, et puis petit à petit, je me suis intéressé à tout le répertoire. Donc j'ai interrogé le frère Dominique, qui malheureusement est aujourd'hui décédé, et le frère Christophe, qui a continué ce travail, où il m'a fait passer des partitions, où je les ai déchiffrées, il y avait des choses qui étaient extrêmement intéressantes, d'autres qui avait été traité un petit peu plus superficiellement, mais toujours très très talentueux. Le maître mot, c'est talent. Voilà.
Passionnant, vous êtes allé vraiment au cœur de son intimité créatrice. C'était presque un dévoilement.
Oui, complètement. Un dévoilement de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que l'œuvre était en puissance, et que sans ce travail de redécouverte, c'est comme si on avait laissé un trésor dormir pendant... ça fait pas très très longtemps que le père Clément est décédé. Il est décédé en 76. Si on avait laissé ce trésor dormir pendant 40 ans. Et aujourd'hui...
Et il n'avait pas souhaité, lui, se faire éditer, ou... Ça ne l'intéressait pas.
Plutôt de l'ordre de l'humilité. Voilà. Je crois que c'était plutôt de l'ordre de l'humilité que du désintérêt. Mmh. L'humilité, c'était, il le dit lui-même, à la fin de son œuvre, de son livre Les Souvenirs à deux voix, il dit qu'il ne se considère pas comme un grand musicien, et pourtant, c'est un grand musicien. Ouais, oui. C'est un grand musicien français, et je ne cesserai de le faire connaître jusqu'à ce que je ne puisse plus, mais c'est un très grand musicien français. Par rapport, je vous disais tout à l'heure que, en tant que musicologue, je trouve que son œuvre est bien supérieure, et je le dis sans crainte, à l'œuvre de Millau, hein, ou à l'œuvre de compositeurs de son époque, comme Georges Auric ou Sauguet, Henri Sauguet, qui était un de ses condisciples de l'école d'Arcueil. Je trouve que son œuvre, musicalement, est bien supérieure à ses contemporains. Et je suis toujours étonné de la réaction des gens quand je donne une œuvre comme la quatrième sonate en concert, la réaction des gens qui est toujours très 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 favorable, très positive.
Ah oui, bien sûr. De son vivant néanmoins, il était joué.
Il était joué par il a été joué plusieurs fois à Toulouse par Auriacum, qui était un de ses amis.
Oui. Le
fondateur de l'orchestre de chambre, qui existe toujours. Mmh. Et il a été joué également par Rosemarie Clouzot, qui était son interprète pianiste de prédilection.
Et avec laquelle il a écrit justement
Avec laquelle il a écrit Les Souvenirs à deux voix.
Ce sont des lettres échangées, qu'est-ce que...
Ce sont des entretiens.
Des entretiens, voilà.
Un peu comme nous faisons ici. Voilà. Ce sont des entretiens sur sa vie à Paris, sa vie durant la guerre, sa vie au monastère, sa vie régionale également. On y trouve des noms toulousains célèbres. Mmh. On trouve le nom de ses amis revellois, la personne de monsieur et madame Châtillon, qui sont les parents de Alain Châtillon, le sénateur de Haute-Garonne, et dans lequel il allait jouer, dans le salon desquels il allait jouer très souvent. On trouve le nom de beaucoup de madame Gloria, qui était de madame Choucroune, et qui était des personnalités, des figures de la culture toulousaine. Alors donc, ces souvenirs à deux voix, c'est sa biographie en fin de compte, hein, voilà. Et il a écrit également un autre ouvrage qu'on peut trouver à la bibliothèque de Toulouse, qui s'appelle L'art et la grâce, et qui est plus un ouvrage d'esthétique réservé à en fait il donne des définitions personnelles de ce qu'est pour lui l'art chrétien. Les œuvres qui sont postérieures à sa conversion, les œuvres de 1935 à 1945, sont des œuvres remarquables. C'est des œuvres qui portent en elles toute la quête intérieure de Don Clément Jacob, toute sa souffrance. C'est un langage qui est éminemment tonal, mais dans lequel il y a quelques effets, quelques figures de style très très particulières, comme par exemple les mélodies en boucle. Quelque chose, une sorte de musique qui se cherche, de mélodie qui se cherche, comme ça. Et donc une esthétique un peu du tournoiement. Comme si Don Clément cherchait, après les deuils qui lui sont qu'il a eu hein, pendant la guerre, c'est quand même sa famille, toute sa famille qui a été
complètement décimée,
voilà,
hein.
Morte au camp. Et donc il a eu cette, on sent dans cette musique cette esthétique du tournoiement, mais on la sent également par le fait que il y a souvent dans cette période des plages d'éternité. Tout d'un coup, la musique s'interrompt, le flux musical, le discours s'interrompt et on assiste à des plages de musique divine, réellement, comme si...
C'est le temps divin, c'est le temps divin, voilà.
C'est le temps d'éternité, le temps de Dieu, et comme si sa quête brutalement était interrompue par... En fait, il est dans la reconnaissance divine, réellement. Mmh. Et ça, c'est un effet de style également, hein, qu'on trouve très souvent dans ses premières sonates, la seconde, la troisième, la quatrième, la cinquième. Également, un effet de style dans son langage musical, c'est des chromatismes très, très âpres, très durs. Comme si le chemin qui mène à Dieu est un chemin parsemé de difficultés et que ces difficultés,
il les vit.
Vraiment, voilà. Et donc là, très souvent aussi, dans cette sonate 4, par exemple, ou la sonate 5, on a des passages qui sont âpres, durs, difficiles à écouter et difficiles à jouer également, parce que chez le pianiste, tout doit concourir à exprimer cette difficulté, ces chromatismes. Chromatisme en musique est un signe de souffrance, de douleur. Dans le langage musical, dans toutes les époques, chez Monteverdi jusqu'à Don Clément Jacob, il exprime la douleur, le chromatisme. Mais là, on a des chromatismes à tous les instants, à toutes les notes, à tous les accords, et c'est ce qui en fait également la richesse.
Mmh. Bernard Arbus, une question très personnelle. Vous-même, vous avez la foi ?
Oui, je suis croyant. Je suis pratiquant occasionnel, mais croyant perpétuel. Oui.
Vous avez cheminé, vous aussi, personnellement ?
Oui, tout à fait. Oui, depuis que j'ai commencé à connaître Don Clément, à le jouer, je crois que j'ai lu ses œuvres. Je crois que ma foi personnelle s'en est trouvée transformée. Elle s'est trouvée... voyez, vous parliez tout à l'heure de musique sacrée. Pour le père Clément, la musique sacrée n'est pas la musique de Dieu. C'est-à-dire que pour lui, il a rencontré l'art sacré, mais il n'a pas rencontré Dieu quand il a rencontré l'art sacré. Et que la musique de Dieu est une musique qui doit mêler authenticité, ce que j'ai dit tout à l'heure, liberté et également pureté. Ces trois caractéristiques sont celles de la musique de Dieu, mais pas de la musique sacrée. Il parlait de Messiaen, justement, sur lequel il a écrit beaucoup, en disant que Messiaen était un compositeur chrétien, mais que ce n'était pas un artiste chrétien. C'était un compositeur qui faisait de la musique sacrée, mais qui n'était pas un artiste chrétien. Que pour lui, l'œuvre de Messiaen était en direction de l'innovation et pas assez en direction de Dieu. Et quand j'ai déchiffré la musique de Don Clément, j'ai compris ce qu'il voulait dire. J'ai compris que pour lui, ce que vous avez entendu tout à l'heure dans le deuxième extrait, c'est l'opposition de deux thèmes. Un thème qui est un petit peu tournoyant, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis un thème qui s'inspire davantage des mélodies grégoriennes. C'est-à-dire de musique réellement pure, de musique réellement proche du langage divin en quelque sorte. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Dans la musique du XXe siècle, j'ai cherché. J'ai pas trouvé d'exemple proche de ce langage-là, de ce langage qui mêle à la fois l'art réellement de son temps, hein, le langage de son temps, d'un art naturel, musical naturel, et de ce rapprochement de Dieu, voilà, de cette musique pure, comme son esthétique est une esthétique de la pureté également. Hein. Et j'ai pas trouvé. Pourtant, j'ai beaucoup cherché dans les compositeurs catholiques également.
Bernard Arbus n'a exploré encore qu'une petite partie de l'œuvre de Don Clément Jacob. Il reste encore de nombreuses partitions à déchiffrer, mais pour l'heure, n'hésitez pas à découvrir les deux CD déjà enregistrés, Sonate, Nocturne et Barcarolle.